Vous écoutez RTL.
Tout de suite, Paris, capitale du romantisme, les quais de Seine, les poètes, la tour Eiffel qui brille. Mais attention, derrière les cadenas du Pont des Arts et les modos de la place du Tertre se cache une ville beaucoup plus olé-olé avec ses petites femmes, comme dirait Serge Lama, ses bons publics, comme dirait Georges Brassens, ou ses hôtels particuliers, comme dirait Serge Gainsbourg. Parce que oui, Paris cache bien son jeu, Paris érotique. C'est tout de suite dans votre curiosité avec Dominique Khalifa. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'histoire à la Sorbonne. Et vous vous êtes penché sur le Paris érotique d'Offenbach aux 60s.
Alors on va démarrer avec une question générale et donc historique. Est-ce qu'on a toujours eu le droit de s'embrasser dans la rue à Paris?
Ah ben non, absolument pas. Pendant longtemps, vous risquiez gros. Hein. On pouvait être arrêté par les flics pour outrage à la morale publique. Alors j'ai envie de vous dire, oui, on s'est toujours embrassé dans la rue à Paris, mais il fallait faire attention, il fallait être sûr qu'on ne vous voit pas. On prenait des risques, effectivement. La morale publique ne tolérait pas effectivement de tels dérapages.
Et donc il fallait se cacher. On va vous montrer le Paris érotique, le Paris planqué. Restez avec nous sur RTL.
RTL. Mon pays est Paris. La curiosité est un vilain défaut. Anaïs Bouton. Thomas Hugues.
Mais que serait la curiosité sans les grands remixes de François Latouche? Enfin, François Touchard,
oui,
dit Latouche.
Touchard.
Alors là, on avait Joséphine Baker et Lady Marmelade, évidemment, et puis Offenbach. De retour, donc, dans votre cabinet de curiosité avec Dominique Khalifa, historien. Vous êtes professeur à la Sorbonne. Le baiser, quand est-ce qu'il devient, on en parlait tout à l'heure, quand est-ce qu'il devient vraiment...
Légitime
et plus un problème? Et qui le popularise, alors?
Alors, je crois qu'il y a un événement majeur, qui est la guerre de 14. Je crois que lorsque tous ces couples sur les quais de la gare de l'Est, sur les quais de la gare du Nord, dans cette émotion collective extraordinaire qui a été le départ des poilus, on a commencé à s'embrasser, soit au départ, soit aux retrouvailles. Ça, je crois que pour la première fois, là, vraiment, il y a eu l'idée, bah oui, embrasser sa femme ou sa petite amie ou son fiancé. Voilà, c'est possible. Et puis après, il y a le cinéma, bien sûr. Hein. Je pense que la vogue des films hollywoodiens et puis des films français aussi, qui dans les années d'entre-deux-guerres vont faire du baiser sur la bouche, symbole majeur de l'amour. Là, alors, non seulement nos grands-parents vont voir les films, mais ils vont aussi s'embrasser dans la salle quand la lumière est tombée. Et puis alors après, c'est parti. Je crois qu'on peut dire vraiment qu'à partir des années 30, il est légitime de s'embrasser en public. Et puis alors, il y a aussi cette grande fête populaire qui a été la libération de Paris, où on a vu tant de jeunes parisiennes monter sur les chars des libérateurs américains pour les embrasser à pleine bouche. Mais enfin, bon, il a quand même fallu du temps. Hein. La légitimité du baiser public, c'est pas venu tout seul.
Et celui qui l'a popularisé, c'est évidemment Robert Noineau avec son baiser de l'Hôtel de Ville.
Il y a cette photo fabuleuse, si célèbre, dont on a découvert beaucoup plus tardivement que c'était pas aussi spontané qu'on l'a cru pendant longtemps. C'était quand même il avait payé des jeunes élèves du cours Florent pour. Mais bon, il y a eu une demande par la suite. Ah, mais j'étais sur la photo. Mais c'est une photo qui a fait le tour du monde et qui est tellement emblématique de ce que Paris. Parce que Paris peut représenter pour les amoureux du monde entier qu'effectivement on est au cœur là du grand symbole du Paris amoureux.
Dominique Khalifa, vous publiez ce livre Paris, une histoire érotique d'Offenbach aux 60s aux éditions Payot. Donc on y découvre quand même une société assez corsetée où on cherche le moyen justement de se draguer, de se rencontrer, d'assouvir ses désirs, sa sexualité. Est-ce qu'à chaque époque il y a ses lieux secrets dans Paris?
Oui, sans doute, même si effectivement on s'aperçoit qu'il y a quand même des récurrences très très fortes. Il y a des quartiers de Paris qui aujourd'hui, comme hier ou avant-hier même, étaient incarnés des choses. Je pense à Montmartre en particulier, qui de façon différente a continué à être une ville, un lieu dans la ville particulier.
Mais on draguait, je ne sais pas, dans les parcs
bien sûr, les jardins, les boulevards. Ça, on a perdu un peu. Le boulevard, vous savez, cette grande ligne des boulevards qui court depuis la Madeleine jusqu'à République et qui a été pendant presque deux siècles, ce lieu majeur où on se promenait, où on allait au restaurant, où on allait au théâtre, où on allait au cinéma et où on rencontrait des hommes et des femmes.
Les balles aussi.
Alors les balles,
on faisait la chasse aux maris.
On danse beaucoup. On a oublié ça. On est les enfants de la révolution sexuelle. On a donc complètement oublié ce qui se passait avant les années 60. Et mon bouquin parle d'avant les années 60. Mais les balles, oui. Le nombre de Parisiens et de Parisiennes qui se sont rencontrés aux balles. Alors des balles, il y a toutes sortes. Il y a les balles de la grande société où on présentait les jeunes jeunes filles au bon parti, mais il y a aussi tous les bals populaires, hein, les bals du 14 juillet, etc., etc., où beaucoup, beaucoup de monde se sont rencontrés.
Alors voilà, bah là on s'est rencontrés justement, on s'est connus, on s'est reconnus, on s'est rencontrés, on s'est mariés, hein, Thomas. Avec vous, Dominique Khalifa, on fait un grand tour dans le Paris érotique. Et attention, les curieuses, les curieux, dans un instant, on vous donne rendez-vous derrière l'église.
Allons bon.
Mais pourquoi donc? Allez, on y va sur RTL.
La curiosité est un vilain défaut. RTL.
C'est une visite de Paris vraiment placée sous le signe de l'amour.
Avec Anaïs Bouton et Thomas Hugues.
On sait que Paris est la ville des amoureux, mais on connaît moins les anecdotes.
De retour dans votre cabinet de curiosité sur la première radio de France avec vous, Dominique Khalifa. On fait un tour dans le Paris érotique. Alors, les couples adultères, comment ça se passe pour eux à cette époque-là, d'avant la libération sexuelle?
Ça dépend si on est un homme et une femme. Hein, on va dire, c'est quand même beaucoup plus facile de maintenir une relation adultère quand on est un homme que quand on est une femme. D'abord, c'est un délit. Ça va être un délit jusqu'en 1971, mais c'est un délit qui est très inégalement réprimé, ouais. Hein, parce que les femmes risquent des peines de prison qui peuvent être parfois un peu lourdes, tandis que l'homme, lui, ne risque qu'une amende. Ça, c'est l'inégalité de genre majeure qui pèse sur les relations hommes-femmes.
Alors, tout à l'heure, on a parlé d'église. Pourquoi l'église?
C'est quoi ce rendez-vous derrière l'église?
Oh, ben, écoutez, on est à un moment où la présence des femmes dans l'espace public, c'est pas si évident que ça. Nous, on a l'habitude, hein, on se promène, tout va bien. Mais pendant très longtemps, on pensait qu'une femme, elle avait pas grand-chose à faire toute seule dans la rue, ou alors c'était peut-être une femme de mauvaise vie. Donc, il fallait trouver des lieux qui étaient des lieux où il était légitime pour une femme d'être toute seule. L'église a sans doute, effectivement, était un de ces lieux. Et puis, oublions pas aussi que pour les jeunes, c'est amusant quand on lit les témoignages ou les mémoires ou les souvenirs des jeunes filles, on s'aperçoit que très souvent leur premier coup de cœur, c'est « Oh, ce beau garçon qu'elle a vu là, sur le banc de l'église. » Donc, c'est un lieu, si vous voulez, c'est un lieu où la présence des femmes, où la présence de la mixité est légitime, donc on va pas s'en priver.
Alors, l'adultère, vous nous l'avez dit, est un délit pour les femmes jusqu'en 71. Ouais. Ça, c'est quand même une info qu'on va retenir grâce à vous dans la curiosité sur RTL, et dans votre livre Paris, histoire érotique, publié chez Payot, vous publiez des petites annonces qui sont directement liées à cet adultère.
Les garçonnières.
Ouais. Alors, c'est d'abord, on va rappeler, je pense que tout le monde le sait, mais quand même, une garçonnière, c'était quoi? C'était un marché dans le Paris du début du XXe siècle, on va dire.
Oui, c'est l'endroit où, effectivement, il y a un marché immobilier très très important pour les garçonnières. Savez-vous à quel étage doit être située la garçonnière?
Ah non.
Eh bien, soit au rez-de-chaussée, soit à l'entresol, jamais plus haut, parce que on ne peut pas prendre le risque que la dame qui vient vous visiter rencontre quelqu'un dans l'escalier. C'est toujours très, très, très bas, et ça doit être très bien meublé. Effectivement, c'est l'endroit où les messieurs vont recevoir leur maîtresse.
Et alors, on a le droit à des petites annonces quand même, moi j'adore. Homme du monde demande hospitalité payante une ou deux fois par semaine dans une confortable garçonnière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il veut partager les frais,
celui-là? Ça veut dire que ça lui coûte un peu cher. Il a bien envie d'avoir des maîtresses, mais il n'a pas envie de payer plein pot. Quoi.
Ouais.
Alors, le mobilier est tellement adoré. Il doit y avoir une psyché absolument, un beau miroir, des peaux de bête, un divan, il faut que tout soit...
Ah, c'est codé.
Vous pouvez avoir la garçonnière que vous voulez, mais après, si vous voulez qu'elle soit bien, bien suivie...
Alors, une autre annonce artistique garçonnière, installation confortable, à vendre de suite, pour cause, adieu vide garçon.
Voilà.
Elle est bien, celle-là aussi.
Il y avait urgence. Vous avez même dressé, alors ça, c'est fascinant, un plan de Paris par arrondissement,
oui,
qui est un plan de l'adultère, c'est
voilà.
Ça?
Voilà, alors c'est pas moi, c'est une enquête de 1928, oui, qui était un peu fantaisiste. En fait, on pourrait, si vous voulez, parce que comme à l'époque, on pouvait, pour divorcer, faire un constat d'adultère par un commissaire de police, on pourrait, si on épuisait, si on dépouillait tous les commissariats de police, avoir une vraie statistique.
Ouais.
Là, je pense que...
Vous l'avez quand même.
Je pense qu'elle est un peu fantaisiste, hein, celle qui a été publiée en 1928. Moi, je l'ai prise parce qu'elle est très amusante.
Mais quels sont les quartiers?
L'endroit où vous avez le plus de chances, effectivement, de vivre des adultères, c'est le quartier Odéon. C'est dans le 6e, autour de l'Odéon, puis après il y en a d'autres.
Pourquoi? Parce que c'est un quartier étudiant. On a une explication ou pas?
Non, là, il nous dit pas. Il se contente effectivement de montrer un peu quelques coups de force comme ça.
D'accord. Vous savez ce que c'est que la Parisine? C'est un jus très particulier.
Allons, bon.
On en parle dans un instant sur RTL.
RTL. Pas question pour les touristes de passer par Paris sans y sceller leur cadenas d'amour. Anaïs Bouton, Thomas Hugues.
C'est parce que nous voulons que notre amour vaille toujours. Pour toute la vie. Je t'aime, Célia.
La curiosité est un vilain défaut.
Les amoureux continueront à voler de pont en pont pour sceller leur idylle dans la capitale de l'amour.
Ingrid, est-ce que tu baises ?
Oh là !
Et on a basculé dans les inconnus avec le mythique tournée ménage Paris capitale de l'amour. Je crois que j'ai perdu Anaïs Bouton. Dans toutes les villes de France, en fait, je réfléchissais à ça tout à l'heure, on se chuchote souvent le nom d'un quartier ou d'un lieu un peu secret où on peut faire des rencontres, il ne faut pas trop être vu et en même temps où certains rêvent d'aller. C'est ce qu'on découvre avec notre invité, l'historien Dominique Khalifa, c'est ce Paris caché, ce Paris secret, ce Paris érotique d'Offenbach aux années 60, parce qu'après c'est la libération sexuelle et tout change. Dominique Khalifa, il y a un journaliste en 1860 qui justement définit l'essence de Paris, celle qui peut-être encore aujourd'hui attire les touristes au Pont des Arts. C'est quoi l'essence de Paris ?
Alors le gars s'appelle Nestor Roqueplan, il est assez amusant, un homme de théâtre et journaliste, et donc il essaye de dire, mais c'est quoi cette sentimentalité de Paris, cette espèce d'atmosphère incroyable qui va tout d'un coup pousser les couple, la sensualité, la volupté, l'amour à Paris. Alors il va lui donner un nom, il va lui dire c'est la Parisine. La Parisine, c'est cette humeur qui viendrait du pavé de Paris et qui pousserait les hommes et les femmes, les femmes et les femmes, les hommes et les hommes, puisque effectivement, j'en suis pas resté à l'hétérosexualité, il y a toute forme d'amour dans Paris à partager quelque chose de particulier dans cette ville qui n'existerait nulle part ailleurs.
Mais cette perception par le monde, juste après nous, Flavie Flamand va parler de l'image des Français et de la France à l'étranger, cette perception d'un Paris coquin dans le monde, ça naît quand ?
Ben, ça naît à partir de ce moment-là. Pour moi, c'est le Second Empire. D'accord. C'est l'idée des plaisirs de Paris. C'est Offenbach. C'est la vie parisienne, effectivement. Et ça demeure encore. C'est le nombre de. Alors, vous allez me dire, c'est pas forcément coquin, mais le nombre de voyages de noces et de jeunes qui viennent américains, argentins ou espagnols ou chinois qui viennent passer ou qui viennent se marier ou qui viennent passer leur voyage de noces à Paris, c'est extraordinaire.
Alors, il y a plein de mots qui naissent à l'époque comme cette Parisine. Est-ce que. Enfin, ça, c'est pour parler de l'érotisme qui règne dans la ville. Qu'est-ce que c'est que les lorettes ?
Alors, les lorettes, c'est tout à fait fantastique. C'est ce qui justifie que ce livre existe d'une certaine manière. Parce que l'idée, c'est qu'il y a quelque chose dans l'espace même de Paris qui sonne érotique. La Lorette, on connaît l'église Notre-Dame de Lorette, le quartier Notre-Dame de Lorette. Oui. C'était un quartier extrêmement à la mode dans les années 1840. C'était le quartier où tous les jeunes romantiques, les jeunes à la mode, de la Croix, Berlioz, Georges Sand, Chopin, les Goncourt allaient habiter. Et donc, comme c'était le quartier à la mode, c'était également le quartier où toutes les demi-mondaines, où toutes les femmes entretenues, où toutes les prostituées de luxe, qu'on n'appelait pas encore à l'époque les courtisanes ou les cocottes, on les a appelées tout bêtement les lorettes. Une lorette, c'est une courtisane de luxe qui, effectivement, soit se fait offrir un très bel appartement, place Bréda ou par là, soit, encore mieux, si elle le peut, un hôtel particulier.
Ce qui est très drôle, parce qu'il y a l'ironie vis-à-vis de la religion qui, évidemment, interdit dans ce terme. Il y en a eu beaucoup d'autres, des mots comme ça, pour désigner les demi-mondaines.
Alors, on a essayé, par exemple, après le succès de la Dame aux Camélias, qui a tellement grand succès, la pièce du Mafis, comme elle habitait la Madeleine, on a dit, on va les appeler les Madeleine, mais ça marche pas, non, ça prend pas. Donc les lorettes, ça prend, puis après on va les appeler, le terme qui va vraiment gagner après, c'est la cocotte, quoi. La courtisane ou la cocotte. En 1900, on dit les grandes cocottes.
Et les horizontales, ça c'est pas très sympa.
Si, mais ça se disait aussi beaucoup, c'est moins sympa, mais bon, voilà.
C'est visuel.
Ouais,
et alors, il y a aussi des maisons de rendez-vous, rapidement, qu'est-ce que c'était qu'une maison de rendez-vous ?
Alors, une maison de rendez-vous, c'est un endroit où un homme et une femme, ou un homme et une prostituée, vont se donner rendez-vous pour un 5 à 7, ou n'importe quelle autre heure des rendez-vous. N'importe quel autre horaire de la journée, si vous préférez, ce que vous imaginez. Le truc, c'est que, autant les maisons closes, on pense beaucoup trop aux maisons closes, le nombre de bordels a beaucoup, beaucoup, beaucoup diminué à Paris au 19e et au 20e. On passe d'environ 200 maisons closes au début du 19e à une trentaine à la Libération. Au moment de la loi Martrichard, quand on supprime les maisons, il n'y en a plus qu'une trentaine. En revanche, les maisons de rendez-vous, alors ça, c'est l'explosion.
C'est quoi la différence ?
La différence, c'est qu'il n'y a pas de pensionnaire dans la maison de rendez-vous. Il n'y a pas de fille à demeure. Hein ? On y vient.
C'est Belle de jour, en fait. C'est le film de...
Et un lupanar, tiens, puisqu'on est dans la sémantique érotique ou coquine, c'est quoi un lupanar ?
C'est un bordel, là. C'est une maison close, hein, pareil. C'est pas une maison de rendez-vous. La maison de rendez-vous, elle est plus libre. On a le sentiment que c'est peut-être une relation un peu plus vraie.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup Dominique Khalifa. On s'est régalé en lisant votre livre. Merci de nous avoir emmenés dans ce voyage dans le Paris de l'amour, du secret, de la passion. Alors le titre de votre livre, c'est Une histoire érotique d'Offenbach aux 60s, publié chez Payot.
À bientôt, merci.
Merci
fin
à vous.
De cette émission, ça passe trop vite, mais vous pouvez nous retrouver sur rtl.fr. Demain, le programme.
Et ben demain, on vous parlera de Mimi, un personnage mystérieux, gardien des secrets, des personnalités qui a ses entrailles à l'Élysée, Mimi Marchand, et puis aussi du retour des grands animaux.
Thomas Hugues, Anaïs Bouton.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.